Welcome to Grenoble Campus Radio. We're broadcasting live from the Grenoble School of Architecture. Tune in on 90.8 FM for the opening of the NSAG Radio Studio.
Comme vous venez de l'entendre, on est toujours sur Radio Campus 90.8 FM, en direct de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble, toujours pour une radio ouverte pendant encore une petite demi-heure, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des choses à dire. Je vais laisser la parole à Nicolas Tixier, Jules Macoison et Cédric Pichat qui vont nous parler un petit peu d'une recherche qu'ils ont fait récemment mais qui résonne avec une recherche qui a été faite il y a un petit peu plus longtemps. Je te laisse nous expliquer ça, Nicolas.
Oui, alors c'est vrai que tout au long de cette journée, il y a une figure qui traverse plusieurs fois les émissions, c'est la figure de Murray Schaeffer. Raymond Murray Schaeffer, donc c'est un musicien, soundscaper, on va dire aujourd'hui, mais à l'époque le mot existait peu. C'est quelqu'un qui a tout de suite pris conscience que l'on pouvait écouter les sons du monde et écouter comment est-ce qu'ils fonctionnaient, on va dire, en écologie entre eux. On était à la fin des années 60, tout début des années 70. Il avait eu comme enseignant Marshall McLuhan, pour qui tout était communication. Et donc, il n'y a aucune raison que les sons du monde ne communiquent pas entre eux et forment ensemble une écologie sonore dans le meilleur des cas. Alors, Murray Schaeffer a développé ça à l'université Simon Fraser à Vancouver. Et c'est pour ça que c'est les paysages sonores de Vancouver qui, au début des années 70, ont commencé à être édités et deviennent un petit peu mythiques aujourd'hui. Mais je voudrais vous parler d'un autre travail de Murray Schaeffer qu'il a entrepris en 1975 avec l'aide de l'UNESCO, qui consistait à faire l'étude des paysages sonores de 5 villages européens. 5 villages européens de moins de 3000 habitants qui devaient être caractéristiques d'une activité. Alors les villages ont été choisis avec l'UNESCO, et donc les 5 villages, c'était Cembra en Italie, Lesconil, en Bretagne, en France, Bissingen, en Allemagne, Skru, et je dois mal le prononcer, en Suède, et puis Dollar, en Écosse. À bord d'un petit Volkswagen, avec une série de microphones, avec des nagras, donc pour enregistrer, et quelques sonomètres, à 5 ou 6, selon le village, ils sont partis passer une dizaine de jours dans chacun de ces villages, au printemps 1975. De là est née une étude qui fait date aujourd'hui, qui s'appelle « Five Villages Soundscape ». Cette étude, en fait, essaye de caractériser les villages, à la fois par l'écoute, l'enregistrement, mais aussi par des méthodes de comptage, des méthodes de mesurage, et aussi de cartographie. Cartographier les sons, comment est-ce qu'on cartographie un son ? Ben voilà, c'était les premiers travaux. Et cette étude qui a été auto-publiée a été pendant longtemps difficile à trouver. Donc là, on est en 75. Ce qui est très intéressant, c'est que 5 ans après, en 1980, eh bien, un grand preneur de son, Yann Parent-Owen, décide de revenir à Lesconil et en partant à la recherche des souvenirs qu'avaient les habitants du passage des Canadiens à Lesconil. Et il en a fait un très beau documentaire sonore que vous pouvez trouver assez facilement en ligne, qui s'appelle « Questionnaire pour Lesconil ». C'était en quelque sorte une première reconduction. Mais une équipe de Finlandais, en 2000, sous la direction d'Elmi Jurvanovna, a décidé de refaire les 5 villages, 25 ans après, en ajoutant un village finlandais, Nagu, qui est une petite île au sud de la Finlande. Et donc, avec une équipe pluridisciplinaire, on refait exactement, à peu près dans les mêmes semaines, au printemps 2000, la nouvelle étude de ces 5 villages. Avec Jules Macoison, j'ai eu la chance de participer, il y a 25 ans, à cette seconde étude. Vous l'avez compris, si la première étude était en 75, la deuxième en 2000, 25 ans après, nous avons proposé avec un des chercheurs qui était présent en 2000, Heikki Rimonen, un chercheur finlandais, de refaire les 5 plus 1 village en 2025. Et donc c'était ce printemps,
que les cinq villages ont été, entre guillemets, reconduits dans leur étude, toujours avec une équipe pluridisciplinaire, sans minibus Volkswagen, malheureusement, mais avec beaucoup plus de matériel sonore dans nos valises. Cédric Pichat, Jules Macoisin et moi avons eu le plaisir donc, de revenir à l'Esconil pour à la fois refaire les méthodes que Murray Schafer avait mises en place en 1975 pour pouvoir, je dirais, jouer de la comparaison, si celle-ci est intéressante, mais aussi d'amener d'autres méthodes. Et parmi les autres méthodes que nous avons amenées, il y a eu le fait, évidemment, d'amener aussi la question de la réécoute des sons d'avant, des sons de 1975 et des sons de 2000. Et donc nous arrivons presque, voilà, il y a quelques mois nous arrivions de l'Esconil, et peut-être on peut commencer par écouter un premier son. Jules, si tu peux présenter un son.
Un son donc de l'an 2000, l'an 2000. Et oui, donc on a enregistré beaucoup de choses dans différentes dimensions. On a essayé de reproduire en partie les protocoles que l'équipe canadienne avait déjà essayé 25 ans plus tôt. Et parmi ces protocoles, il y en avait un qui était très intéressant, qui consiste à se poser dans un endroit central du village et d'enregistrer sur 24 heures. Alors pas 24 heures sur 24, mais on a comme consigne d'enregistrer 10 minutes au début de chaque heure, en commençant par exemple, là c'était à minuit, et en finissant donc à 11 heures du soir le lendemain. On se le relayait toute la journée pour enregistrer. Et puis, alors c'est là, il y a une différence peut-être déjà à cette époque-là par rapport à l'équipe canadienne de Murray Schafer, c'est que eux, ils comptaient les passages de voitures, les bateaux, les choses comme ça. Et n'enregistraient pas forcément, ou alors ils n'ont pas publié leurs enregistrements. Alors qu'en l'an 2000, avec Elmi et toute son équipe, on s'est dit, en plus de compter les passages de voiture, on va enregistrer ces fameuses 10 minutes au début de chaque heure. Ensuite se pose le problème que comment est-ce qu'on fait écouter de 24 fois 10 minutes, ce qui nous fait 4 heures. Donc vous prenez vos coussins et puis on est parti pour... Voilà, tout ça. Non, pas du tout. On a essayé de faire une réduction temporelle, c'est-à-dire de prendre quelques minutes de chacune de ces 10 minutes ou quelques secondes parfois pour avoir un format d'écoute qui soit, on va dire, entre 10, 12, 15 minutes, qui est déjà un peu plus raisonnable. Et puis là, celui qu'on va vous faire écouter, c'est... J'ai simplement gardé l'annonce au début de chaque heure de celui qui est sur le terrain et qui annonce il était l'heure et on va enregistrer. Et donc ça fait un petit montage de environ 7 minutes de minuit jusqu'à 11 heures du soir.
Ok, it's about midnight on this brand new 2nd of May 00 Julien on the spot recording
24 hours of L'Esconil part 2. 1 o'clock Julien. 2 o'clock Julien is not frozen still and the first boat is...
L'Esconil port, the 2nd of May 2000. I'm Tero Hyvärinen from Turku University. This is a 24 hours recording and traffic count.
Good morning.
It's 4 o'clock, the 2nd of May. And the place is L'Esconil port. The constant ticking sound is from a halyard of small sailing boats. In the sailing school.
It's Nicola, 5 o'clock past 5, boat start. News record, it's 6 o'clock past 10, Nicola.
It's 7 on the morning, Nicola.
Hanna Rantala, L'Esconil port. 10 minutes past 8. Leskanil port, 12 minutes past 9. Morning. Hanna Rantala, traffic count, Leskanil port, 14 past 10.
Leskanil traffic count, 2nd of May. This is Heikki Uimonen and the clock is 12 past 11 in the morning. So, traffic count in Leskanil. 2nd day of May, year 2000. This is Heikki Uimonen and time is 11 past 12. Traffic count in Leskanil. 2nd of May, year 2000, this is Heikki Uimonen, and the time is 14 past 1 in the afternoon. Sorry, I had to tighten the microphone.
It's the 2nd of May 2000 in Leskanil and 10 past 2. Tänään on 2.5.2000. Kello on 3:10 ja tein juuri lähdettyä äänitysloppuun tässä Leskanilin satamassa. Ohi meni muutamia kuorma-autoja ja 21 autoa ja yksi moottori tai mopo.
Alright, so this is soundscape recording of Leskanil Harbour. First one by me, Jakob Remy. Time is 8 in the evening and we continue 10 minutes from now. Alright, so that was it. Be back in 50 minutes. Alright, we are now back with the traffic count. Time is 1 past 9. Still Jakob Remy. On the dot. Yep, we go 10 minutes. Yep, it is now 9:15. Had to stop the previous recording because of a nice French man. We try again 10 minutes from now. Okay, so this ends our session for now. Truck is coming now. Alright. Soundscape recording, let's go near the port. The time is now 10 o'clock in the evening and we're recording 10 minutes. Beep. 10 minutes of this fucking cold and empty port. Alright. Good night, ladies and gentlemen. Elvis has left the building.
Voilà, alors on était à Leskanil au printemps 2000, où toutes les heures nous nous relayons pour faire 10 minutes d'enregistrement et préciser, comme vous l'avez entendu, quelle heure il était. Mais nous faisions aussi un décompte, et ce décompte-là, et c'est dans ces enregistrements-là, nous avons refait aussi en 2025. Alors c'est intéressant quand même de regarder ce que nous disent les comptes de 1975, de 2000 et de 2025. C'est ce qu'a commencé à établir Cédric.
Alors oui, du coup, moi j'étais présent uniquement en 2025. Donc du coup, on vient juste de récolter un peu les données, on est en train de les analyser. Donc oui, effectivement, il y avait le compte des voitures, des vannes, des camions, tracteurs, des piétons. Alors pas bateau, mais on avait aussi mobilette. Et alors plusieurs points, ouais, qui sont peut-être intéressants, mais bon après qui paraissent un peu logiques, c'est effectivement le contexte économique ayant diminué à l'Esconil. La criée a disparu à l'Esconil. Le nombre de chalutiers a aussi considérablement diminué. Là on les a pas comptés, mais on les voyait arriver toutes les après-midi. Il n'y a plus que deux chalutiers à l'Esconil au lieu d'une vingtaine en 2000 et d'une cinquantaine, je crois, en 75. Et du coup, au nombre de tracteurs, de camions. Déjà, nous, enfin, on n'en avait plus en 2025, alors qu'en 2000, il y en avait quelques-uns. Le nombre de voitures aussi a diminué en 2025. On est vraiment pour l'instant juste dans le calcul de tout ça. Après, le nombre de piétons. Alors, il y a une chose étonnante dans le nombre de piétons. C'est qu'en fait, à chaque fois, dans les décomptes, on discriminait hommes ou femmes et enfants. Enfants, alors en fait, en 2000, il n'y avait pas enfants. Mais du coup, ouais, ce qui est ouais, un peu étonnant, c'est que dans les années 2000, le nombre de femmes comptées était très faible, alors qu'en 2025, le nombre est quasiment équivalent. Je suis incapable d'analyser ça, je donne les faits vraiment de manière factuelle. Là c'est vraiment pour l'instant juste une première impression de ce qu'on a. Le nombre de mobilettes par contre est resté constant, exactement le même. Et ce que Nicolas et Jules ont remarqué en 2000 et qu'on a remarqué en ce 2025, c'est que les jeunes font toujours le tour du port en mobilette. Ceci n'a pas changé en 25 ans. Et ce bruit de mobilette est vraiment constant dans nos enregistrements, on l'a régulièrement, ce qui était aussi le cas en 2000. Donc c'est quelque chose de récurrent qui fait partie de la vie sonore de l'Esconil. Je pense au niveau du compte de ce qu'on peut dire.
Oui, merci. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'imaginer, c'est-à-dire qu'on part en 75, 2000, 2025, tout de suite on a envie de se poser la question de 2050. Et ce qui va dans une croissance à un moment donné va peut-être décroître. Ce qui a disparu peut-être va réapparaître. Peut-être que dans 25 ans, nous retrouverons des tracteurs ou l'équivalent des tracteurs. C'est une agriculture locale qui se redéveloppe. Peut-être que nous retrouverons des bateaux de pêche. Donc en fait, ce pas de temps de 25 ans est assez troublant parce que c'est vraiment un pas de temps sociétal. Mais à travers cette société qui évolue fortement, l'espace sonore ou le paysage sonore, si on reprend la caractéristique de Murray Schafer, a quand même quelque chose qui perdure et qu'on reconnaît, qu'on identifie assez fortement, en particulier parce que le port est sous une forme de anse. Il n'y a pas vraiment de place de village. La place, quelque part, c'est le cœur du port, donc au milieu de l'eau, mais un cœur qui est vide les trois quarts du temps, sauf quand il y a des bateaux de plaisance ou des chalutiers qui rentrent. Et la vie se situe tout autour du port. Mais il n'y a pas un endroit particulier. Les sons, du coup, sont extrêmement discrets dans l'espace. On les entend de-ci, de-là, au lointain. Et ce qu'on entend très très bien, c'est à la fois l'air avec le vent, mais beaucoup d'oiseaux. Mais c'est aussi l'eau avec les clapotis, les marées, etc. Donc un environnement sonore qui est extrêmement caractéristique et évidemment qui perdure. Alors pour l'écouter, Jules, on a l'arrivée d'un chalutier ou le départ d'un chalutier en 2025.
C'est ça. On va donc écouter maintenant un enregistrement qui date donc de ce printemps. On aurait pu faire écouter les 24 heures de l'Esconil en 2025, mais ça serait un petit peu long. Donc on va simplement vous faire écouter un de ces deux derniers chalutiers qui part tous les matins aux alentours de 5-6 heures, et qui revient en fin d'après-midi. Alors ce qui a aussi changé, vu qu'il n'y a plus que deux chalutiers, non plus une vingtaine, c'est que quand ils arrivent, il y a une grande partie de la population qui se rassemble et qui vient faire son marché juste au déchargeage des bateaux et qui ont commandé des langoustes, qui ont commencé... C'est quoi un chalutier? Un chalutier, un trawler. Oui, c'est les bateaux qui vont pêcher en mer et qui ont des grands filets. Voilà. Et donc on écoute un de ces retours d'un de ces chalutiers qui s'appelle les gars de l'Escon.
Ouais, Les gars de l'Escon s'appellent le bateau.
Merci pour ces belles écoutes. Merci à tous les trois. J'ai une petite question. Nicolas, au début, tu as parlé de faire réécouter les sons, discuter avec les habitants, etc. Et du coup, vous n'en avez pas trop parlé. On a beaucoup écouté les choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça a donné, comment ça a marché, ou pas, ce rapport avec les habitants?
Le fait de revenir refaire le même travail après 25 ans fait qu'on ne peut pas le refaire à l'identique, puisque de toute façon on a le souvenir de ce que l'on avait fait, ce qu'on avait entendu, ce qu'on avait rencontré il y a 25 ans. Et donc on a aussi tendance à ne pas être neutre par rapport à cette reconduction, mais à raconter le fait que on était venu il y a 25 ans et que Murray Schaeffer était venu il y a 50 ans. Alors évidemment, ça change complètement le rapport que l'on a dans l'entretien avec les personnes. Une partie de cette histoire était d'ailleurs un peu connue, mais un peu quelques personnes uniquement. Et donc ce qu'on a organisé, c'est une séance dans un café d'écoute, à la fois d'écoute au casque et d'écoute sur des petits haut-parleurs, des sons de 75, des sons de 2000 et des sons de 2025, et où les gens qu'on avait invités débattaient entre eux, commentaient les sons. Et là, c'était assez formidable, puisqu'il y avait des moments assez émouvants où des gens entendaient leur père, par exemple, parler. Il y a 25 ans, des gens pensaient que c'était leur grand-père qui parlait en 75, et les gens cherchaient évidemment tous les indices qui permettaient d'identifier quelque chose de beaucoup plus fin que ce que nous on aurait pu faire. C'est exactement qui parle, qu'est-ce qu'il est en train de faire, quelle relation au lieu il a, etc., etc. Et que ça c'était assez merveilleux. Et évidemment la question qui se pose maintenant, c'est qui va revenir dans 25 ans. Donc il faut absolument revenir en 2050, et puis peut-être en 75, etc. Donc c'est aussi un appel, quand on fait de la recherche, à revenir sur ses propres terrains, et à la fois raconter ses propres recherches, et en même temps, eh bien, voir l'évolution des terrains, mais voir aussi tout simplement l'évolution de nos propres représentations, de nos propres préoccupations. Qu'est-ce qui nous intéresse lorsqu'on fait une étude de paysage sonore ? Eh bien, je pense que l'intérêt n'était pas le même en 75, en 2000 et en 2025. Et ça, c'est assez passionnant à observer.
Le pouvoir du son sur les vécus et les pratiques, c'est super. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble, 90.8 FM, en direct de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. C'est la fin de cette radio ouverte. On va continuer le programme de la journée, bien sûr. On reste avec vous. Et j'espère que vous restez avec nous.